Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Dieu se fait homme pour que l'homme soit Dieu, soit divinisé. C'est ce que nous enseignent les pères de l'Église, éclairés par l'Esprit Saint. Dieu se fait membre d'une famille humaine pour que toute la famille humaine devienne la famille de Dieu. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui en cette fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Alors préparons-nous à célébrer le mystère de cet admirable échange actualisé dans l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire « Dieu exauce ». Car, disait-elle, « Je l'ai demandé au Seigneur ». Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la montagne du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre
esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Ils les écoutaient et leur posaient des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Et d'abord, bonne fête à chacun, à chacune d'entre nous, puisque nous sommes tous membres d'une famille humaine, et nous sommes membres de la famille humaine, et nous sommes membres de la famille de Dieu, comme je l'évoquais au début de cette célébration. Le négatif sera bref, rassurez-vous. Depuis plus de 50 ans, nous le savons, nous ne le savons que trop, la famille est la cible de toutes les idéologies toxiques ambiantes et de leur cortège de désastres. Je ne détaille pas, ça remplit l'actualité. Et pourtant, comme le dit le père Sonnet, malgré ou à cause de cette cacophonie, tous les sondages le montrent. Il disait ça il y a quelques décennies, mais je crois que c'est toujours valable. Il me semble, je n'ai pas eu le loisir de reprendre la magnifique lettre apostolique ou exhortation apostolique du pape François sur la famille, mais il me semble qu'il redit ce que je vais dire, à savoir que tous les sondages montrent que la famille, malgré voilà, tous les mensonges ambiants, la famille est le lieu d'une attente considérable, et en particulier des jeunes. Bonne nouvelle, qui confirme, en dépit, encore une fois, de tous les négateurs, la vérité d'une nature humaine, faite pour un amour bio et un amour durable. C'est la même chose d'ailleurs. La parole de Dieu aujourd'hui nous offre le témoignage de 2 familles concrètes, bien incarnées dans le réel, qui ouvrent aux familles d'aujourd'hui comme d'hier un chemin de vérité, de vie et de bonheur. Un chemin de vérité d'abord, la vérité sur la famille ou une vérité, enfin une vérité importante. Eh bien, il y a beaucoup de vérités à dire sur la famille, bien sûr, mais une vérité importante sur la famille que nous apprend cette parole de Dieu, que nous redit cette parole de Dieu aujourd'hui, y compris la famille chrétienne, c'est qu'elle ne peut être un lieu idyllique, car la foi
et l'appui sur Dieu ne supprime pas notre nature et une nature qui est blessée. Reconnaissant que nous avons péché, nous le disons au début de chaque Eucharistie, parce que nous savons bien que notre condition humaine réelle, c'est un combat permanent contre l'homme ancien pécheur qui se débat en nous encore. Alors donc, la famille, y compris la famille chrétienne, cela ne peut être jamais un lieu idyllique. Et si les amoureux le rêvent au début de leur chemin d'amour, ce qui est sans doute normal, eh bien, la vie leur apprend qu'il faut peut-être rectifier un peu leur vision des choses et leurs projets, et retomber un peu les pieds sur terre. La famille sans souci, une famille sans épreuve et sans heurts, cela n'existe pas. Même la Sainte Famille, qui nous est donnée devant les yeux aujourd'hui, où la charité, là pour le coup, était parfaite, n'a pas été épargnée par l'incompréhension mutuelle. Le texte est bien clair. Ils ne comprirent pas. Et Jésus, lui aussi, ne comprend pas pourquoi ses parents n'ont pas compris. L'incompréhension mutuelle dans la Sainte Famille. Vous vous compte? Ça nous fait du bien de lire ça. Voilà, donc ça fait partie de la route. Et le foyer d'Elkana et Anne, et je ne parle pas de la polygamie, parce que si on lit ce qui précède, on s'aperçoit que Elkana a deux femmes, ce qui était assez courant encore à l'époque. D'où, vous imaginez, toutes les jalousies et les humiliations que Anne subit, puisque, effectivement, elle connaît l'épreuve immense de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Son mari en souffre par voie de conséquence, forcément aussi, de voir sa femme si triste et si humiliée par l'autre. Un chemin de vérité, oui, une famille, y compris une famille chrétienne, c'est un lieu d'épreuve. On ne peut pas en être autrement. L'amour n'est pas un long fleuve tranquille. Et pourtant, c'est un chemin de vérité et un chemin de vie que nous donnent ces deux foyers, que nous donne la parole de Dieu. Parce que ces familles, justement, sont enracinées, fondées sur celui qui est la vie, le vivant, et même la vie, ce qui est encore plus fort. La prière persévérante d'Anne, qui est le signe de sa foi profonde, la foi totale, pour le coup, de Marie et de Joseph, et leur recherche persévérante de l'enfant perdu, reçoivent une réponse de vie, une réponse où la vie a le dernier mot et la plus forte. Parce que Dieu entend et exauce, c'est le sens, vous le savez, du mot, du nom Samuel. Dieu exauce, Dieu entend, Dieu exauce. Oui, un chemin de vie. Et combien de familles, pour ne citer que cet exemple de la Sainte Famille qui perd son enfant en quelques jours, mais on devine l'angoisse. Je pense que des parents qui ont peut-être connu, qui ont perdu leur enfant quelques heures, ne serait-ce que quelques heures, savent ce que l'angoisse peut être à ces moments-là. Et combien de foyers, nous le savons, aujourd'hui souffrent de la perte d'un enfant, soit par un deuil, ce qui est une blessure à vie, oui, effectivement, pour le coup, tellement ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses, qui ont perdu un enfant par le deuil, qui ont perdu un enfant qui a claqué la porte et qui ne donne plus de nouvelles, ou qui sont éprouvés d'une manière ou d'une autre par le chemin que suivent leurs enfants. Je pense qu'ils peuvent se reconnaître dans ce drame et cette angoisse qui a étreint Marie et Joseph en ces jours. Oui, ces foyers nous donnent un chemin, nous ouvrent un chemin de vérité, un chemin de vie, et ce don de vie, un don de Dieu, s'épanouit, eh bien, en bonheur, oui. Anne est comblée dans son attente, et sa gratitude envers Dieu est telle et si grande qu'elle n'hésite pas à consacrer son enfant pour le service de Dieu. Voilà, c'est l'occasion aussi, ce qui n'était pas, enfin, je veux dire rarissime peut-être, je n'en sais rien. La Bible nous en donne quelques exemples d'enfants comme ça qui sont donnés à Dieu dès leur tendre enfance. Cela nous surprend évidemment aujourd'hui, mais c'était peut-être voilà, quelque chose qui pouvait arriver. Et cela montre, parce qu'il y a quand même une séparation là encore, ça paraît tellement étrange, cette femme qui a tant désiré un enfant, elle est capable, tellement sa gratitude est immense, de le donner à Dieu et de s'en séparer pendant quelques années, plusieurs années, puisque ensuite, évidemment, le prophète Samuel va arpenter la Palestine et va sans doute faire un bisou à sa maman de temps en temps, en tant qu'elle sera sur terre. Mais n'empêche qu'elle s'en est séparée plusieurs années pour le donner au Seigneur et qu'il soit élevé dans le temple du Seigneur. C'est pas rien. Est-ce que dans les foyers chrétiens, catholiques, on est capable d'accueillir l'appel de Dieu sur un enfant qui parle ou qui évoque sa possibilité de se consacrer entièrement au Seigneur? Prions pour que les foyers soient capables de cela. C'est, voilà, tout est don de Dieu. Quelque part dans toute famille humaine, je pense, je le crois profondément, dans toute famille chrétienne, je veux dire, il faudrait qu'il y ait ce désir. Il faut demander à Dieu la grâce qu'il appelle un des enfants à se consacrer totalement à lui. C'est un cadeau merveilleux que le Seigneur fait dans une famille quand il appelle un des enfants. Ça ne déprécise pour aucunement le mariage pour autant. Le mariage, bien entendu, une vocation merveilleuse aussi, qui est don de Dieu. Mais c'est une grâce merveilleuse aussi. Et Dieu ne prend rien, comme disait Benoît XVI, il donne tout. Et quand il appelle un enfant à se consacrer à lui, mais c'est une grâce immense. Et il faut l'accueillir dans la confiance et la gratitude, comme Anne. Quant à Marie et à Joseph, eh bien leur angoisse et leur croix s'épanouit finalement en lumière pascale. D'ailleurs, cette absence de 3 jours, bien entendu, n'est pas sans évoquer, et rien n'est au hasard dans les œuvres de Dieu, n'est pas sans évoquer et annoncer, bien entendu, la séparation de la passion de 3 jours aussi entre l'enfant et sa mère, entre Jésus et Marie. Voilà. Mais qui s'épanouit en lumière pascale, oui, recouvrer l'enfant, recouvrer la vie. Et qui s'épanouit aussi en émerveillement devant cet enfant qui a émerveillé les docteurs de la loi. Vous pensez que ce couple, cet humble couple de Nazareth qui vient avec fidélité, humilité, accomplir, de tout leur cœur d'ailleurs, bien sûr, cette célébration pascale, retrouve leur enfant au milieu des sages d'Israël et qu'il fait l'émerveillement des sages d'Israël? Ben, il y avait une angoisse, mais qui se transforme en même temps en émerveillement, en étonnement, nous dit le texte. Et puis, émerveillement de voir, ils savent qui est cet enfant, bien sûr, de voir qu'effectivement, en grandissant, Jésus grandit en taille, mais aussi en sagesse et en grâce. Eh bien, il a été, bien sûr, la joie, la fierté, le bonheur de ses parents. Vous avez entendu ici, du moins les anciens, vous avez entendu souvent autrefois cette parole qui est, je crois, du père Varillon, « La joie chrétienne est une souffrance traversée. » La joie chrétienne est une souffrance traversée. La joie pascale est une souffrance traversée. Et c'est vrai que bien l'exemple de ces deux foyers que la parole de Dieu nous donne aujourd'hui nous le confirme. Oui, la famille, donc, est un lieu d'épreuve, mais qui devient lieu de vie, de salut, de bonheur, lorsque nous y accueillons, et nous y accueillons le Dieu fait homme, lorsqu'il est au cœur de la famille, et lorsqu'il peut y demeurer. Et l'évangile, ou la deuxième lecture, vient de nous dire que celui qui garde les commandements, c'est-à-dire avoir foi en Jésus, et nous aimer les uns les autres demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc il demeure dans la famille. Alors je pense à cette parole pour terminer de la Vierge Marie à l'île Bouchard. Il y aura du bonheur dans les familles. Il y aura du bonheur dans les familles. Oui, il y aura du bonheur dans les familles dans la mesure où nous accueillons le Dieu fait homme et où il y vit. Amen.